Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui alors qu'on continue dans la série Le rêve de Dieu et on va regarder encore à la vie de Joseph. Et il y a vraiment, dans cette série, on reçoit beaucoup de bons témoignages de gens qui disent combien la série leur parle parce que Dieu est un Dieu qui parle au travers de sa parole. Et les histoires, même si elles sont biographiques, même si ça fait des millénaires qu'elles ont été vécues, je crois que Dieu continue de parler à son peuple, continue de parler à celui qui veut entendre. Alors que ce matin, nous puissions avoir le cœur ouvert en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux te révéler? Que veux-tu révéler à moi? Qu'est-ce que tu veux? Où veux-tu me défier dans ma vie? Où veux-tu consoler? Où veux-tu guérir? Où veux-tu confronter également? Vous pouvez dire amen à n'importe quel moment. Parce que la parole de Dieu continue de parler à celui qui veut écouter. Alors qu'aujourd'hui, on puisse vraiment avoir le cœur ouvert, alors qu'on va parler d'un sujet vraiment important pour chacun d'entre nous ici. Et c'est important qu'on puisse continuer dans cette série, Le rêve de Dieu, parce qu'en tant que croyant, il est important d'avoir des aspirations et de vivre des rêves conformément à la parole de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui dit non, tu n'as pas le droit de rêver, tu n'as pas le droit d'aspirer à des grandes choses, tu n'as pas le droit de... Non, non, au contraire, Dieu dit, je veux placer en toi un rêve et je veux que tu puisses, avec l'Église, avec la parole, avec l'aide du Saint-Esprit, accomplir ce pour quoi tu as été destiné. Parce qu'on n'est pas juste placé sur cette terre ici pour vivre 80, 100 ans maximum, allez, 120 pour les plus robustes. Et c'est souvent des femmes les plus robustes en tout cas. Mais il y a un côté où Dieu veut que nous puissions faire une différence ici. Alors à chaque fois qu'on se place devant la parole de Dieu, Dieu a toujours un espoir pour nous, pour que nous puissions, peu importe la situation dans laquelle nous sommes, retrouver l'espoir que demain sera meilleur qu'hier. Combien peuvent dire amen? Il y a toujours un espoir avec Dieu. Alors qu'on puisse ce matin ouvrir nos cœurs. Et on continue dans la vie de Joseph, on étudie, et plus on étudie la vie de Joseph, même si c'est une série autobiographique, en fait biographique, pardon, c'est facile de s'identifier à Joseph dans tellement de domaines. On l'a vu dans les semaines précédentes, et puis depuis qu'on a commencé cette série, à chaque situation de la vie de Joseph, il y a quelque chose pour nous, pour qu'on puisse comprendre ce que Dieu veut nous parler. Aujourd'hui, on va regarder à l'entourage de la vie de Joseph. Parce que la vie de Joseph, il a été longtemps isolé de tout et il a été déporté, on l'a vu dans les dernières semaines. Il a vécu tellement des up and down, des ascenseurs émotionnels, tout seul, loin de tout. Mais sa vie commence avec sa famille et sa vie se termine avec sa famille. Là où il y a le plus de joie et là où il y a le plus de peine. Et aujourd'hui, on va regarder à l'environnement de Joseph, son entourage. Parce que la famille... On a tous une famille, il n'y a personne qui est né ici dans une famille idéale, une famille parfaite, en disant, aujourd'hui là, je peux regarder, toute ma vie, on a été dans une cohabitation harmonieuse, avec une communication fluide, avec une autorité en même temps empreinte de douceur, épanouissement personnel pour chacun des membres de la famille, où on s'encourageait mutuellement, il n'y avait pas de jalousie, n'est-ce pas? Il y avait toujours quelque chose, une parole douce de tout le monde, on s'écoutait parler, une famille où tout était facile, non. On a tous, et au plus on avance dans la vie, vous êtes d'accord avec moi, au plus on se rend compte des patterns de nos familles que parfois on reproduit malgré nous. Heureusement, il y a des bonnes choses qu'on reproduit, mais on se découvre de plus en plus parce que notre famille joue un rôle incroyable, qu'on le veuille ou pas. Des fois, on veut fuir nos patterns familiaux, mais il y a des choses qui nous rattrapent malgré nous. Et Joseph, on va le voir que tout au long de sa vie, sa famille a joué énormément sur lui. Mais Dieu avait un plan malgré tout. Et on voit qu'à la fin de sa vie, Dieu met en lumière des choses qui étaient cachées. Dieu restaure le bien. Dieu va changer même le mal en bien parce que Dieu a un plan même pour les familles les plus dysfonctionnelles. Combien peuvent dire amen? Et c'est ça l'espoir dans la vie de Joseph. On voit parce que le désir de Dieu est que nous ayons des familles en santé, n'est-ce pas? Le désir de Dieu est que la famille soit un lieu de bénédiction. Un lieu, même si on est loin d'être des familles parfaites, je pense que Dieu veut nous amener de gloire en gloire, de victoire en victoire. Qu'on puisse encore aujourd'hui comprendre des principes spirituels et véritables de la parole de Dieu pour que nous puissions continuer à grandir dans nos familles, n'est-ce pas? Le plan initial pour Dieu, c'est une famille qui est un lieu de bénédiction. Et alors que Joseph, sa famille est loin d'être idéale, si vous avez lu l'histoire, je vous ai défié au départ à lire avec nous le Genèse 36 à 50, que vraiment on puisse s'imprégner de la vie de Joseph, parce qu'il y a tellement de principes qui sont bons pour nous, mais on voit que sa famille est loin d'être idéale. La Bible est transparente et directe. Elle ne nous cache pas les fautes, les erreurs des parents, des enfants, de la jalousie, il y a des choses incroyables. Et on voit que malgré tout, Dieu trace un chemin pour qu'il y ait l'espoir et que ça nous parle encore aujourd'hui, 2, 3, 4, peut-être 5 000 ans après que l'histoire s'est faite. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est « Le rêve de Dieu, l'impact de la famille ». Et on va regarder à ce que la Bible nous rapporte au sujet de la famille de Joseph. Je vous donne le contexte rapidement pour ceux qui n'étaient pas là les dernières semaines. On est très heureux de voir des dizaines de personnes et des dizaines de familles s'ajouter chaque dimanche. Vous êtes les bienvenus. Est-ce que Nouvelle Vie, on peut les applaudir, toutes ces personnes qui sont là pour la première fois? Vous êtes les bienvenus et c'est la maison ici. On ne vous connaît pas, mais on vous aime déjà. Joseph est le 11e d'une famille de 12. Il y a vraiment beaucoup de patterns dans cette famille. Son père, Jacob, que son nom va être transformé en Israël. Jacob, lui aussi, provient d'une famille avec beaucoup de patterns également. Et dans sa famille, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Joseph est le 11e, l'avant-dernier. Il est, entre guillemets, un petit dernier, le fils de la femme préférée de Jacob. Et là, on voit que Il y a tout un pattern familial qui se propage. Non seulement Joseph avec son père, parce que sa mère est décédée, non seulement Joseph avec son père, mais on voit aussi Joseph avec ses frères. Et on va regarder le contexte de Genèse 37, versets 2 à 11. On va le regarder au début. Joseph a 17 ans et on va voir comment dans sa vie, il part avec déjà quelque chose contre lui. En fait, c'est quasiment trop pour lui et contre lui. On va le lire ensemble. Si vous n'avez pas votre Bible, c'est à l'écran que ça arrive. Genèse 37, verset 2. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bilha et de Zilpa, les femmes de son père. Et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve et il raconta à ses frères ce qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher les gerbes au milieu des champs et voici que ma gerbe s'est dressée et est restée même debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternées devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Et ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai fait encore un rêve, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père, cette fois-ci, et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, « Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Quand on lit ce récit, on voit que Joseph a eu un mauvais départ dans sa vie. Même si son père y avait du favoritisme sur lui, Joseph est mal parti au niveau de son cocon familial. Et mon premier point pour vous aujourd'hui, c'est le mauvais départ de Joseph. Il part dans la vie avec un mauvais départ. Et peut-être ça vous parle aujourd'hui parce que vous dites, « Oh, moi, je ne viens vraiment pas d'une famille idéale, je viens vraiment d'une famille très dysfonctionnelle, et puis je suis en train d'essayer encore d'aujourd'hui recoller les morceaux. J'ai l'impression que c'est comme derrière moi un petit peu. » Mais on va voir comment Dieu, malgré nos mauvais départs, peut tracer un chemin incroyable pour que Joseph soit, lui, l'un de ceux qui va sauver sa famille, un de celui qui va amener l'espoir, la réconciliation, l'amour et tout ce que Dieu veut pour nos familles. Parce que peu importe les blessures qu'il a vécues, Dieu va faire toute chose nouvelle. Et il veut faire toute chose nouvelle dans ta famille également. Amen. Joseph a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Il n'avait malheureusement pas le modèle familial dont il aurait eu besoin. On peut voir que son père, Jacob, lui aussi, dans sa jeunesse avec son frère Ésaü, si vous connaissez un peu l'histoire, il y a vraiment déjà là un départ malheureux dans la vie de Jacob. Et on voit que dans sa famille, à lui, à Jacob, il y a des patterns qui continuent. Rivalité, colère, honte dans la famille. Sa mère, à Joseph, lui, est morte en donnant naissance à son petit frère, le dernier, Benjamin. Et alors qu'on voit que cette famille est complètement brisée dès le début. Il y a les mêmes problèmes parfois que son père avait dans sa famille. Il y a un pattern familial qui est là et qui n'arrive pas à être complètement restauré. Joseph était le fils préféré, on pourrait dire, mais c'était bon pour lui. Il était le fils préféré de son père. Mais en fait, on voit que le favoritisme de son père sur Joseph l'a amené à une place complètement détestable parce que tous ceux qui étaient autour de lui le voyaient comme le favori, donc eux étaient les rejetés, d'une façon de parler. la tunique de Joseph, alors que Jacob lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs, elle était visible de loin. Donc dès que Joseph arrivait, ça se voyait tout de suite que c'était lui le préféré. Et même s'il était parmi les derniers de la famille, il, entre guillemets, était en train de voler l'héritage. Parce qu'un fils préféré d'une femme, de la femme préférée de Jacob, Jacob avait plusieurs femmes, on voit déjà là que le pattern était quand même déjà assez difficile dans ce côté-là. Il avait une femme préférée et il y avait un fils préféré de cette femme. Donc même ses demi-frères n'avaient pas la même mère et ils savaient que leur mère n'était pas la préférée. Imaginez, ok ? Au plus on étudie, au plus on dit, wow, ça part mal pour Joseph. Alors qu'on pourrait dire, hey, mais il était protégé, justement, il était le favori. En fait, non. Sa place de favori, au niveau de familial, au niveau de cette famille dysfonctionnelle, va lui jouer des tours encore pire. Il était le plus jeune et était quasiment l'héritier. Donc on voit dans ce texte que l'amour et la haine sont exactement dans la même saison familiale. Et ça peut nous rappeler parfois nos familles à nous. Quelles dysfonctions avons-nous eues dans nos familles ? Quelles dysfonctions en ce moment on voit encore ? Est-ce qu'il y a du favoritisme ? Est-ce qu'il y a du rejet ? Est-ce qu'il y a des paroles qui ont été dites, qui ont marqué quelque chose ? Et autant positif, autant négatif, il y a des choses qui sont dans nos familles qui peuvent être complètement destructeurs tout au long de notre vie, n'est-ce pas ? Joseph aussi avait sa personnalité, il était petit de la famille, mais on voit que c'est celui qui rapporte tout à son père. Il est sans doute jeune, c'est un adolescent, mais il y a comme un côté où lui ne se rend pas compte que même sa personnalité est dérangeante. Il dénonce ses frères. C'est lui qui casse le fun. À chaque fois, le snitch, c'est lui qui va aller voir. Hey, papa, regarde ce qu'ils ont fait, puis tout ça. Donc, j'imagine que ses plus grands frères, déjà, étaient partis avec un mauvais pied. Ça continue. C'est celui qui rapporte le tout. Il joue celui qui a la faveur. Et il ne s'en cache pas. Ce n'est pas de sa faute, mais en même temps, c'est lui qui paye les conséquences du favoritisme de son père. Parfois, dans nos familles, on n'a rien demandé. Mais les choses qui ont été mises sur nous, les tuniques, les choses, les paroles, les espoirs, les rêves, parfois on les a brisés. Et on vit quelque chose qu'on n'aurait entre guillemets jamais dû subir parce que ce n'était pas notre vie. Des fois, les parents essayent de vivre leurs rêves au travers de nous. Je dis ça et en même temps, je me dis, est-ce que je suis en train de le faire avec mes fils ? Non, il ne faut pas que je le fasse. Il faut qu'ils vivent leur vie, leur appel, leur rêve que Dieu a placé en eux. Mais il faut faire attention que nos patterns familiaux ne soient pas des ralentisseurs de rêves et d'appels pour eux. Aujourd'hui, on pourrait parler de Joseph comme un enfant roi. Vous avez déjà entendu cette expression ? L'enfant roi, c'est l'enfant qui souffre d'un excès de moi. C'est celui qui voit tout à propos de lui. Et en ce moment, dans notre société, au plus on va dans une société individualiste, au plus on voit que les enfants sont les plus grands décideurs de la famille. Et je pense qu'il y a un équilibre, alors que dans certaines générations plus anciennes, quand j'écoute mes parents, mes grands-parents et tout ça, avant les enfants, ils n'avaient pas, entre guillemets, le droit de parole. Quasiment, ils mangeaient les derniers à table, ils suivaient, on ne leur demandait pas « Comment vas-tu aujourd'hui avec tes émotions ?» Il n'y avait pas d'émotions à l'époque, quasiment. Mais il y a comme quelque chose d'un équilibre où il fallait revenir à « Non, l'enfant a une place. » Mais parfois, je vous le dis, la place est au-dessus même de la mère ou de l'époux. Il y a comme un côté où l'enfant, parce que peut-être des fois, un peu comme Joseph, il a eu dans sa vieillesse, des fois c'est un enfant qu'on a tellement désiré pendant longtemps que quand il est là, on ne veut tellement pas perdre sa faveur de sa faveur envers nous qu'on est comme prêt à tout lui faire aujourd'hui. Et on connaît tous peut-être des familles où il y a une dysfonction, alors qu'on essaye de faire le bien va se retourner en mal parce qu'au plus un enfant est roi, au plus il tombe de haut à un moment donné dans sa vie. Et il faut faire attention, et je crois réellement qu'il y a un bon équilibre à avoir, un sain équilibre. Parce que même aujourd'hui, il y a des parents, des fois, qui visitent l'église et qui nous disent en semaine, est-ce que je pourrais voir l'installation pour les enfants ? Parce qu'on n'a pas encore d'enfants, mais on va choisir notre église en fonction de tout ce qui est donné par l'enfant. Je pense que c'est sain, mais à un moment donné, tu ne peux pas trouver l'église parfaite, même si je crois qu'on a l'église parfaite. Mais tu ne pourras pas, à un moment donné, prendre toutes tes décisions en fonction de, est-ce que mon enfant va être extrêmement bien ? Est-ce qu'il aura la place parfaite ? Je veux connaître le nom et le pédigré de chaque moniteur d'NV Junior pour voir si son éducation va être... Non. À un moment donné, il va falloir que tu fasses confiance à Dieu. Parce que nous devons éduquer nos enfants dans les voies de la parole de Dieu, mais à un moment donné, ils doivent faire leur vie. Il y a un moment donné de relâchement, comme la mère de Moïse qui a dû le relâcher parce que les circonstances, à un moment donné, elle ne pouvait plus tout gérer. Je crois qu'à un moment donné, on a tous, comme parents, et peut-être comme futurs parents, peut-être tu es ici, tu es jeune, puis tu te dis, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore des enfants, mais laisse-moi te dire, aie confiance dans la parole de Dieu que Dieu va prendre soin de tes enfants bien mieux que toi, tu vas le faire. Mais aussi, Dieu va se servir de toi pour qu'il puisse prendre soin de tes enfants. Alors, on a vraiment un rôle à jouer, mais on voit que dans le début de l'histoire de Joseph, on voit que Joseph est quasiment l'enfant roi. Il est le décideur. On riait, il y a quelques semaines, on a regardé un film avec, en famille. Le vendredi soir, c'est la soirée cinéma à la maison. Alors, les enfants, on va au sol et puis on regarde un film. Et puis, en ce moment, un bon film sur Netflix pour les familles, c'était « Aujourd'hui, tout est oui », je pense. Qu'on peut mettre c'est le « Yes Day ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et le principe est un petit peu comme ça. C'est dans une famille, ils ont 3 enfants, et puis les enfants râlent toujours parce que vous dites toujours non, vous êtes toujours négatif, on ne peut pas avoir de fun dans la famille. Alors là, la maman, elle entend parler d'un « yes day ». C'est un genre de phénomène, je ne sais pas d'où c'est parti et il y a combien de temps, mais c'est que pendant une journée, c'est les enfants qui décident de tout. Les parents n'ont pas le droit de dire non, c'est ça le principe. Donc, bien sûr, il y a des règles, il ne faut pas que ça soit dangereux pour eux et tout ça. C'est un des seuls films que tu peux regarder à Netflix et puis vraiment te dire « Ah, oh, ça, c'est un bon film. » Bref, ça, c'était ma petite parenthèse Netflix, mais en tout cas. Et alors qu'on regardait ce film, on se disait avec Sophie « Est-ce qu'on serait game de faire ça un jour ?» Parce que tous les enfants se disent « Oh, on n'a pas de liberté, on en voudrait plus. » Je dis « Ben, si j'avais eu même 10% de ta liberté quand j'étais enfant, je serais comme heureux. » Mais au plus on leur en donne, au plus ils en veulent, n'est-ce pas ? Je dis pas « Amen, c'est un counseling entre nous, ils ne nous entendent pas, ils sont là-bas. » Et alors qu'on regardait ce film, il y a vraiment le côté où les parents n'ont pas le droit de dire non. Mais on voit rapidement qu'à la fin de la journée, sans règles établies, sans cadrage, sans dire non à ce que tu penses être bon. Je posais la question à Lenny, je déjeunais avec lui un matin, et puis je disais, t'aimerais ça avoir aucune obligation, aucun non. Tu peux faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais ? Tout de suite, il a 7 ans. Je mangerai tout ce que je veux. Ok, mais qu'est-ce que tu mangerais ? Là, en ce moment, est-ce qu'on se ferait des tartines et tout ça ? Non, je mangerai des bonbons, parfait. Donc, imaginons, 6h du matin, on commence avec des bonbons, qu'est-ce qu'après on prend ? On prend une pizza, ouais, pizza, 9h, c'est parfait. Pizza, après quoi ? Crème glacée, à volonté ! Ouais, open bar, tout le monde, vas-y, crème glacée. Je dis, ok, juste ça là, à 11h, t'as une crise de foie. En ce moment-là, je te le dis, tu passes pas le midi. Et puis, mais imaginons, hop, tu vomis quelques fois, et puis hop, c'est reparti, tu veux quoi ? Eh bien, il dit, ben, je voudrais conduire la voiture, c'est son rêve, à 7 ans. Parfait, papa, il n'a pas le droit de dire non, prends les clés, tu vas où ? Ben, déjà, comment tu arrives à toucher les pédales, ok ? Même si c'est une automatique, il faut quand même que tu... Mais rapidement, il s'est vu que, non, c'est vrai, papa, il faudrait quand même des... Parce que tu connais le code de la route ? Non. Donc, à un moment donné, quand... Puis c'était extrapolé. Mais on voit que... Si les enfants sont rois, je pense que Dieu a vraiment fait la famille comme il l'a pensé pour le mieux de la famille. Et je crois que l'autorité et la douceur et le « comment vas-tu ?» et « aujourd'hui, non, tu vas y aller à l'école, même si tu ne le sens pas. » Je pense que nous devons faire attention que nos enfants ne deviennent pas tellement sur un piédestal que nous ne pouvons rien leur dire. Il y a réellement, puis peut-être dans ma génération encore plus que jamais, mais l'enfant est comme idolâtre. Idolâtré, merci. Il y a comme un côté où il y a tellement, je veux une approbation, je veux être en fait plus l'ami de mon enfant que son père ou sa mère. Je pense réellement qu'il doit y avoir un équilibre dans nos familles à avoir, et il faut que nos enfants non seulement sachent qu'on les aime, mais qu'ils entendent, qu'on passe du bon temps ensemble. Mais il va falloir pour leur bien, comme dans les proverbes, c'est dit, il va falloir que des fois on corrige les enfants, qu'on leur dise non, qu'on les confronte, parce que c'est pour leur bien. Et c'est pour ça que quand quelqu'un me dit, tu sais, Dieu, il est comme restrictif et tout ça, heureusement qu'il y a des lois. Heureusement que sa parole n'est pas juste, fais ce que tu veux, et puis on verra par la suite. Non, je ne veux pas passer un jour en faisant ce que mes désirs veulent. Parce que je sais que moi, je vais travailler contre moi. Ma chair est faible, mais c'est l'esprit qui est bien disposé. Et je veux tous les jours, non seulement disposer mon esprit, mais tout l'esprit de ma famille en disant, il faut qu'on s'accroche à la parole de Dieu. Et même si parfois on est frustré, même si parfois on ne voit pas ce qu'on veut, même si parfois ce que Dieu a donné, Dieu l'a donné pour le bien de notre couple, de nos familles. Et Dieu veut que nous puissions briller au travers d'une société qui ne sait plus qui est papa, maman. Il y a comme un côté où on ne sait plus où aller. Je pense que Dieu veut restaurer l'idée de la famille au travers des églises et à travers des familles qui sont ici, alors qu'on puisse applaudir la parole de Dieu qui nous montre. Réellement, nous sommes avec toutes nos imperfections. Il n'y a aucune famille ici qui est parfaite. Mais je crois réellement qu'en travaillant avec Dieu, que Dieu travaille à travers nous, il peut faire quelque chose de magnifique là où il y a eu les blessures, là où il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été brisées, je pense que Dieu veut restaurer nos familles. Et au travers de sa parole, on le regarde ensemble. Aujourd'hui, on peut regarder à la famille et puis on voit que, heureusement que le Saint-Esprit nous aide. Heureusement que le Saint-Esprit nous aide. Alors que Jacob était là, il mettait Joseph sur un piédestal et ça a mis de la jalousie dans toute sa famille. Il y a un pattern dès les premières années qui a été mis et que c'était très, très difficile. Mais je crois réellement qu'alors que Joseph avait reçu un rêve, malgré le mauvais départ qu'il avait eu, Dieu voulait le faire passer d'un mauvais départ à quelque chose qui allait se développer, non seulement se développer pour sa vie malgré ses blessures, mais aussi pour sa famille. J'aime la définition de la famille qui dit « La famille demeure un lieu privilégié pour répondre à l'ensemble des besoins, non seulement matériels, mais psychologiques et spirituels. Elle mérite donc qu'on lui accorde toute son importance, d'autant plus qu'elle est propice à éveiller les plus belles qualités de la nature humaine. Amour, générosité, bienveillance, patience, dépassement de soi, leadership, persévérance, et j'en passe. Ce qu'on sème aujourd'hui dans la vie de nos enfants, ce qui a été semé dans leur vie, va porter fruit. » Il y a quelque chose que Dieu nous dit, instruis l'enfant dans les voies qu'il doit suivre et plus tard il ne s'en détournera pas. On a tous des choix à faire, mais je crois qu'il y a une voie qui est tracée et même si parfois on voit qu'ils ne gardent pas toute leur vie dans cette voie, ils savent où aller. Et je crois réellement, et je vais encourager quelqu'un en ce moment qui dit, mes enfants, j'ai tracé la voie, ils s'en sont détournés, mais je crois réellement que Dieu peut encore aujourd'hui, et il veut plus que toi, que tu puisses prier pour eux et continuer de persévérer en disant, Seigneur, fais-les revenir dans tes voies. Qu'ils puissent voir le chemin en disant, moi je ne suis pas en ce moment sur ce bon chemin, mais je veux revenir. Que l'Esprit de Dieu nous pousse à garder espoir et à proclamer que dans nos familles, Dieu va faire un chemin et va ramener ceux qui se sont éloignés du chemin. Amen. Il y a l'espoir pour nos familles. Parce que la famille est un cercle d'influence. C'est ce qu'on appelle les boosters ou les briseurs de rêves. Joseph avait une famille qui ne l'a justement pas compris ni encouragé alors qu'il aurait dû recevoir ça dans sa famille. As-tu des modèles dans ta famille aujourd'hui qui peuvent t'encourager dans ton appel? Si tu me dis oui, c'est parfait, c'est une bénédiction. Si en ce moment tu dis non, il n'y a personne qui me comprend autour de moi, bienvenue à la famille spirituelle. Et c'est pour ça qu'on croit dans l'Église, non seulement dans l'Église avec un grand E partout dans le monde, mais l'Église locale qui représente une maison de refuge. Non seulement pour ceux qui n'en ont pas, mais pour ceux qui, même dans leur famille, ils ont tout ce qu'ils veulent. On a besoin de se lier avec les autres familles, d'encourager, d'être un soutien pour ceux qui n'en ont pas et un jour avoir besoin du soutien des autres. Et c'est pour ça qu'on y croit, ce n'est pas juste un rassemblement, vous venez individuellement et on repart individuellement. Non, il y a quelque chose quand on vient ici, quand on s'entend les uns les autres, quand on prie les uns pour les autres, quand on soutient des gens qui sont de la communauté, par exemple, ukrainienne et qui entendent une église qui prie, qui donne, qui non seulement le dit en parole, mais fait une action, ça les soutient d'une manière incroyable. Parce que quand les familles sont loin, ils ont besoin d'une famille spirituelle. Nous avons tous besoin d'une église locale aujourd'hui parce que c'est notre famille spirituelle. J'espère que vous êtes reconnaissants pour votre église locale ici. Notre Dieu pourvoit pour nous des structures familiales pour que nous puissions recevoir ce que Dieu veut nous donner, même si dans notre famille, nous ne l'avons pas eu. As-tu des bons modèles et des personnes de confiance autour de toi pour t'encourager dans ton rêve, le confirmer, te faire développer ton rêve? Joseph a eu un mauvais départ, mais les circonstances l'ont amené plus proche de Dieu. À chaque étape, il est resté droit devant Dieu. Et on le voit, qu'il soit dans le puits, qu'il se retrouve chez Potiphar, ensuite en prison, il était droit devant Dieu à chaque étape. Il n'avait plus sa famille, il n'avait plus ses mauvais patterns, mais il n'avait plus non plus les bénédictions de sa famille. Mais Dieu était en train de le façonner pour qu'il puisse, lui, restaurer sa famille. L'amour du Père Céleste de Joseph a comblé les manquements de son Père terrestre. Vous ne saurez pas tout ce qui se passera dans votre vie, mais ce que vous savez, c'est que Dieu sera avec vous à chaque étape du chemin. Il s'agit seulement de lui faire confiance. Joseph a fait confiance à Dieu. Et ton mauvais départ n'est pas la destination finale, comme on l'a vu. Ta mauvaise saison en ce moment, peut-être que tu te dis, c'est la pire saison de ma vie. Ta mauvaise saison n'est pas la destination finale. Et on va voir le deuxième point aujourd'hui, c'est le chemin vers la victoire. Même si Joseph a eu un mauvais départ, une famille dysfonctionnelle, il y a eu un chemin où Dieu l'a fait développer pour aller vers la victoire et ramener sa famille à lui. L'histoire de Joseph est fascinante. Mais les circonstances et le passé de Joseph n'ont pas déterminé ce qu'il est devenu. Même si ça l'a découragé, même si ça l'a freiné, il ne pouvait pas arrêter le plan de Dieu. Alors, peu importe d'où tu viens, Dieu a un chemin pour toi. Il y a un espoir pour ta vie. Il y a quelque chose de beau qui peut ressurgir, même des cendres. Et on l'a chanté tantôt. Le deuil en allégresse. De la mort, il fait jaillir la vie. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus. C'est que peu importe les cendres et les ruines qui sont autour de toi, même familialement, Dieu veut te dire, regarde à moi et il y a quelque chose de beau qui va en ressortir. Même si tu me dis, c'est impossible, c'est à Dieu que tout est possible. Amen. En regardant l'enfance de Joseph, à 17 ans, il y a la première crise de vie qu'il vit. Sa crise d'adolescence, il l'a vécue et pas à peu près, Joseph. Mais il a été complètement isolé de sa famille, mis dans un puits. Joseph n'a jamais cessé d'avancer, n'a jamais cessé de se tenir en Dieu. Mais toute sa vie, ses relations ont été mises à l'épreuve. Tout le monde voulait obtenir quelque chose de lui. Tous voulaient obtenir quelque chose de Joseph. Ses frères voulaient sa mort. Ensuite, quand il est arrivé à côté des grands, Potiphar et tout ça, même le pharaon, ses frères voulaient sa mort, les autorités voulaient son savoir. Dieu voulait juste une chose de lui, sa fidélité. Il disait, tu vas être mis dans certaines situations difficiles, mais sois fidèle, reste proche de moi. Dieu voulait simplement sa fidélité, sa relation la plus solide en fait, n'était pas ni avec ses familles, ni avec les grands, ni avec les prisonniers, ni partout. Non, elle était avec Dieu. Et Dieu a restauré toutes les autres relations parce que la première était mise en priorité. Aujourd'hui, remets Dieu à sa première place et tout ira mieux. Il a gardé une disposition de cœur. Joseph avait un cœur bien disposé, il est resté proche de Dieu, droit devant lui. Il n'a pas faibli devant la tentation, il est resté soumis, quelles que soient les circonstances, à la parole de Dieu, entre guillemets. Dieu parlait à Joseph, il lui mettait des choses à cœur. Non seulement, non, il n'avait pas la parole comme nous là aujourd'hui, il ne connaissait pas l'œuvre de la croix, mais il le vivait au travers de sa relation et de sa crainte avec Dieu. Une personne qui vit des difficultés, mais qui est proche de Dieu, va beaucoup plus avancer que quelqu'un qui a l'opulence autour de lui, mais qui ne suit pas la voie de Dieu. Joseph, malgré les mauvaises circonstances qui étaient là, comme il était proche de Dieu, Dieu était en train de le catapulter. Mauvaise situation à bonne situation, et mauvaise situation à encore meilleure situation. Joseph est resté proche de Dieu, c'est ça qui l'a fait avancer. Est-ce que ton réflexe aujourd'hui, quand ça va mal, c'est de t'éloigner de tout? De retourner vers, entre guillemets, ceux qui peuvent te rassurer, peut-être même ta famille. Est-ce que c'est ton lieu refuge premier, ta famille, ou est-ce que c'est Dieu ton lieu où tu viens être ressourcé, renouvelé? On a besoin des gens autour de nous, mais Joseph a gardé sa relation avec Dieu prioritaire avant tout. Lui, oui, peut-être qu'il n'avait pas le choix, mais nous faisons attention de garder Dieu en priorité dans tout ce que nous faisons. Notre réflexe doit être de nous approcher de Dieu, quelles que soient les circonstances. Sa présence te rappelle qui tu es, même au fond du puits. Même quand il n'y a plus rien qui fonctionne, Dieu te rappelle que fais-moi confiance. C'est là où Dieu est en train de faire toute chose nouvelle. Si tu dis j'ai tout perdu, ben tu es à la meilleure place pour recommencer dans les meilleures conditions. Et je sais que parfois, c'est des gens qui disent « Ouais, mais tu ne connais pas ma situation. » Non, mais il y a des centaines de familles ici avec des situations différentes. Mais Dieu est assez un Dieu qui restaure le mal en bien, qui va faire toute chose nouvelle dans nos situations. On l'a tellement vécu que même si on ne connaît pas ta situation, on connaît assez Dieu pour savoir que lui peut tout faire de choses nouvelles. Il peut restaurer là où il y a eu la haine, les blessures. Il peut donner un témoignage là où tu te dis, c'est la pire saison de ma vie. Dieu peut t'amener à une place, c'est pour ça que les baptêmes, je les aime tellement. Les gens qui racontent leur histoire, que normalement tu devrais être le plus honteux de ces histoires-là. Mais ils disent non, parce que je ne suis plus cette personne. J'ai été, entre guillemets, régénéré. Je suis une nouvelle personne. Ce qui fait que je n'ai pas honte de raconter mon histoire parce que Dieu est en train de réécrire une nouvelle. Est-ce qu'on peut applaudir ceux qui sont en train de vivre quelque chose où Dieu remarque, il est en train d'écrire une nouvelle histoire. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas juste un verset pour se motiver le lundi matin. Non, c'est à chaque seconde, il faut se rappeler que Dieu te donne aujourd'hui la grâce pour faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça se renouvelle avec Dieu. Donc l'espoir que Dieu nous amène de pas à pas, de jour en jour, vers notre destination. Si tu es fidèle, proche de Dieu, Dieu va faire un nouveau chemin. Dieu veut te ramener là où il a tracé un plan pour ta vie. Dieu fait toutes choses nouvelles. Joseph avançait vers la victoire. Et la Bible dit, l'Éternel était avec lui et il le faisait réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'Éternel le faisait réussir pour un jour reprendre sa famille et la sauver. Joseph pensait qu'il était loin de tout, loin des problèmes des fois de sa famille. Mais on voit que, alors que ses frères reviennent à la fin, pour vous faire une histoire courte, alors qu'on voit la famille de Joseph au départ joue incroyablement dans la vie de Joseph, à la fin, alors que Joseph pense être loin de tout ça, Joseph devient le premier ministre de l'Égypte. Une place incroyable. Parce qu'il a été fidèle dans la prison, Dieu l'a amené au palais. Parce qu'il a continué à servir les gens avec ses dons et ses talents, il a révélé le rêve. Dieu lui a fait révéler le rêve de Pharaon et Pharaon lui a donné une faveur incroyable. Le rêve de Dieu était en train de se réaliser. Joseph pensait être loin de tout ça, mais quand il revoit ses frères revenir, en fait, ses frères vivaient une famille partout dans les régions environnantes et il n'y avait qu'en Égypte qu'il y avait du blé. Il n'y avait qu'en Égypte que tu pouvais venir pour acheter des nourritures, sinon tu mourrais. Et alors que Dieu lui avait donné une sagesse incroyable, ses frères viennent devant lui. Ses frères ne le reconnaissent pas. Ses frères viennent devant Joseph. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Comme n'importe qui arrive dans un territoire avec une dynastie incroyable, ils se prosternent devant lui. Waouh, Joseph a fait « that's it ». C'est ça mon rêve. Et je vous le dis, là, il aurait pu s'arrêter là en disant « ok, c'était ça que Dieu voulait faire. Ceux qui m'ont trahi, jugé, enfin, je les vois s'humilier devant moi. Enfin, j'ai la vengeance que j'attendais. À Dieu appartient la justice. Enfin, j'ai eu mon heure. » Non, mais il aurait pu. Parce que le rêve était très littéral dans son cas. C'était « vous allez vous prosterner devant moi ». Je ne pense pas qu'au début, adolescent, il pensait régner d'une main ferme. Et tout. Non, il disait « il y a quelque chose, là, on voit que peut-être vous allez m'aimer, peut-être que vous allez me reconnaître ». Mais là, en ce temps-là, là, il savait tout le mal que ça lui avait fait. Il se rappelle du puits, il se rappelle de « et on le vend comme… » Il se rappelle de tout le mal que sa famille lui a donné. Et puis là, il dit « enfin, enfin, je peux avoir vraiment ma vengeance que j'attendais ». Et je vous le dis, en étudiant le texte, alors qu'on sait que Joseph, bien sûr, avec un amour qui vient de Dieu, va pardonner. Mais avant le pardon, il y a eu les tests. Et il a testé ses frères, mais je crois réellement que son cœur était testé à Joseph. Parce qu'il n'a pas dit, « Oh, mes frères, vous êtes là, regardez, c'est moi. » Non, il a vécu des étapes après étapes de colère. C'est incroyable, le texte est vraiment fascinant parce que dans aucune situation de la vie de Joseph, la Bible nous mentionne qu'il a pleuré. Sauf quand ses frères sont revenus devant lui. Sauf quand ses frères sont revenus devant lui. Si on peut le mettre à l'écran, Genèse 45, 5. Joseph ne parvenait plus à retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage de Pharaon. On voit que Joseph n'a pas pu retenir ses pleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pleuré dans toute sa vie. Ça veut juste dire que la Bible ne le mentionne pas quand il a été vendu, pas quand il a été trahi, pas quand il a été isolé, pas quand il a été mis dans la maison de Potiphar. Il n'a pas été quand il a été injustement dans la prison. La Bible ne mentionne pas que Joseph a pleuré, sauf quand ses frères sont venus à lui. Flashback du passé. Ma famille qui m'a tellement fait du mal est là devant moi. Et là, j'ai le choix de me venger, de leur faire payer ou de les pardonner. Les pleurs de Joseph, ce n'était pas juste « Oh, je suis tellement heureux de vous voir ». Non, c'était un mix d'émotions comme on n'a jamais vécu. Et en fait, on l'a déjà vécu. Parce que nos familles sont des lieux de bénédiction incroyables. On aime, puis on voit même dans des familles dysfonctionnelles, même quand les parents sont méchants vers les parents, on voit la résilience des enfants tellement aimés et idolâtrés leurs parents. Quand je regarde des reportages parfois, où des parents battent leurs enfants, mais les enfants continuent à essayer de protéger les parents. Il y a quelque chose de tellement fort dans les familles. Mais malheureusement, le péché, la chute a fait que tout est brisé. Et Joseph pouvait comprendre certains enfants qui ont été complètement rejetés, puis abandonnés, isolés, trahis, tellement... Mais là, il est devant un choix. Et il avait le choix de leur dire, « Regarde, maintenant vous allez payer. » Et c'est pour ça qu'il y a un test qui se fait, et puis il cache, il dit « Revenez avec mon plus jeune frère et allez-y. » Avant qu'il se révèle à eux, j'ai l'impression qu'il joue avec eux, mais en fait non, c'est son cœur, c'est tellement difficile pour lui. C'est tellement difficile. Mais ultimement, son choix a été fait de dire « J'ai craint Dieu dans chaque étape. » Et Dieu a été fidèle dans chaque étape. Oui, j'ai été fidèle sans être parfait. Et Dieu a été fidèle et il m'a amené jusqu'à une place ici. Et il avait le choix soit de venger, soit de les aider pour les sauver. Et Joseph, comme on l'a vu, était une préfiguration de Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu a envahi son cœur. Et on voit que dans ses pleurs, il commence à se révéler à ses frères. C'est moi, Joseph, le frère que vous avez... Oh, imaginez. Waouh, la famille est comme, oh, qu'est-ce qui va se passer? Et là, ils craignent pour leur vie. Même eux, ils continuent à tromper Joseph, essayer de leur dire, regarde, on va mentir pour pouvoir... Non, non, le pattern familial, la dysfonction, c'est pas arrêté là, elle a continué. Mais Joseph avait un choix et il a dit, non, je suis là. Et ce n'est même pas vous qui m'avez amené ici, c'est Dieu qui m'a amené ici. Joseph reconnaît que même si toi, tu as essayé de manigancer quelque chose, Dieu était souverain au-delà de tout. Et moi, parce que je suis fidèle, Dieu m'a amené exactement à la place où je devais être pour vous sauver. Et Dieu, oui, on peut l'applaudir, parce que Dieu change le mal en bien. Et Dieu veut changer nos patterns familiaux pour dire, maintenant, ça peut être toi le décideur pour ta famille. Tu as subi tellement dans ta famille, mais tu as reçu tellement une grâce que maintenant, tu peux la partager. Joseph pardonne ses frères. Et alors qu'il pardonne ses frères, il dit maintenant, où est mon père? Comment va-t-il? Son père qu'il avait tellement aimé. Il n'avait plus de mère. Mais ensuite, il va dire, mon jeune frère, amenez-le. Il y a comme quelque chose où les souvenirs de Joseph, des choses méchantes qu'il avait été fait, n'ont pas éloigné l'amour qu'il avait pour sa famille. Et je pense que même s'il y avait de la vengeance, peut-être qu'il se disait, oh, je pourrais les faire payer. Il y a un amour qu'il avait pour ses frères, qu'il n'a jamais quitté, je pense. Je pense l'amour et la colère qui se chahutaient dans son cœur, comme on peut bien le comprendre, n'est-ce pas? Il y a comme quelque chose, mais Dieu nous montre que le choix de Joseph a été pour pardonner. Joseph, il a toujours tenu debout. Et alors que sa famille était en manque de nourriture, Joseph, lui, était en manque de sa famille. Et Dieu a créé un chemin à un temps comme celui-ci pour que Joseph puisse aider et bénir sa famille. L'amour de Joseph était plus fort que ses mauvais souvenirs. Il avait le choix entre se venger et de pardonner. Mais le chemin vers la victoire, non seulement de Joseph, mais pour sa famille, c'était le pardon. Et alors que j'invite les musiciens à revenir, il y a vraiment... Dieu, par cette histoire, nous montre que même si tu as vécu les pires atrocités dans ta famille, quand tu rencontres Christ, Dieu change toutes choses. Et il peut restaurer des choses que toi-même tu te dis, mais ça fait longtemps que je veux les éviter. Ça fait longtemps que je suis loin de ma famille, loin de mon pays, peut-être pour certains en ce moment. Puis ils disent, au plus je suis loin, au plus je suis loin de mon passé, et ça me fait du bien. Et Dieu, il dit, j'ai restauré toutes choses à la croix, dans notre passé, entre guillemets. Jésus est déjà mort pour nous pardonner de toutes nos fautes et de faire en sorte que notre futur, notre avenir, soit déjà promis à quelque chose de beau en Jésus-Christ. Et le jour où on vient à Jésus, au jour où on lui demande pardon, au jour où on reconnaît son sacrifice à la croix, toutes choses deviennent nouvelles, notre cœur est changé. Ce qui veut dire que notre passé n'est plus ce qui nous définit, même si ça joue encore sur nous parce que nous sommes encore dans ce corps de chair aujourd'hui. Mais Dieu dit, si tu me fais confiance, ton cœur de pierre qui a été changé en cœur de chair peut être renouvelé pour que toi, tu donnes ce que moi je t'ai donné. Et tout l'amour que tu as reçu, tu peux être capable de le pardonner. Est-ce qu'en ce moment, quand tu regardes là où tu viens dans ta famille, là où tu vis tes moments tellement difficiles, est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de pardonner en disant, maintenant, je veux que ça soit réglé. Pas juste éviter, non, réglé. Joseph avait le choix, soit de se venger, et on l'a tous ici. On a tous le choix de dire, parce que j'ai vécu quelque chose de difficile, je vais leur faire vivre quelque chose de difficile, ou je vais faire vivre quelque chose de difficile à ceux qui vont venir après moi. Mais Dieu dit, non. Nous, la famille, la famille n'a pas été créée pour continuer les patterns comme ça. Elle a été faite pour que quand Jésus arrive et le Saint-Esprit de Dieu et la parole de Dieu renouvellent toutes choses et elle nous aide à marcher dans l'amour, dans la douceur, dans la patience, dans la maîtrise de soi. Et tu dis, mais c'est ça que j'ai besoin. Mais c'est la bonne nouvelle parce que Jésus peut te les donner. Le Saint-Esprit de Dieu peut renouveler toutes choses. Et aujourd'hui, Alors qu'on regarde à la vie, à la fin de l'histoire de Joseph, je vais tous les faire. Alors qu'on regarde à la fin de la vie de Joseph, le pardon pour sa famille vient le guérir, lui. Parce que ce n'est pas juste, je vous donne la grâce que j'ai reçue, non, c'est qu'en vous la donnant, je retrouve ce que j'avais toujours voulu. Une réconciliation. Et ensuite, il va voir son père. Il aurait pu décider de dire, vous étiez tellement loin de moi et je vous veux loin de moi. Partez, je ne veux plus rien savoir de vous. Il aurait pu juste faire revenir son père et ses frères et eux garder en prison. Il aurait pu se venger de ceux qui l'avaient volé, ceux qui l'avaient trahi et vendu. Je me souviens de toi. Il aurait pu lui faire du favoritisme. Mais il n'a pas fait. Il a dit, la bienveillance que Dieu a eu envers moi, je vais l'avoir envers vous. Et si j'ai été placé ici, c'est pour vous. C'est pour vous sauver. Il était en train de sauver le peuple égyptien de la famille. Il était en train de sauver les autres peuples qui venaient à lui parce qu'il avait une intendance incroyable. Mais il a aussi choisi de dire, mais je vais être quelqu'un qui va sauver ma famille. Aujourd'hui, Dieu veut servir de toi pour continuer à sauver ta famille. Non, ce n'est pas toi, Jésus-Christ. Non, mais tu es la représentation de Jésus dans ta famille. Joseph était la préfiguration de Christ sans même le connaître. Nous connaissons toute la bonté, la grâce, l'amour que Dieu nous envahit, le pardon qu'il nous a donné, le pardon qu'il continue à nous donner, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a tous besoin de revenir encore à la grâce de Dieu et Dieu peut restaurer toute chose et te dire maintenant, toi, tu peux aller le partager à ceux qui sont autour de toi. Et je parle de pardon, peut-être que quelqu'un ici me dit, mais moi, ce n'est pas dans ma famille que je dois pardonner. Mais ça pèse, et dès qu'on parle de pardon, dès qu'on parle de flashback, dès qu'on parle de blessure, tout de suite, tu as les visages, tu as les situations. C'est normal. Ici, si on passait le micro à chaque personne, on aurait 1000 histoires de gens qui nous ont fait mal. 1000 histoires où nous avons fait mal à d'autres. Et l'histoire du pardon de Christ, c'est que non seulement il est venu mourir pour enlever les fautes que les autres nous ont faites, mais il est venu mourir également pour nous pardonner des fautes que nous avons faites et que nous allons malheureusement faire malgré nous parfois. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus, c'est que peu importe qui tu es, si tu es le méchant ou si tu es la victime, il y a de la grâce pour toi, il y a de l'espoir pour toi. Peu importe si tu viens d'une famille qui a été complètement la pire famille du monde, Dieu veut dire, mais c'est pour ça que ton témoignage va être encore plus fort. Comme d'une femme comme Christine Kane, qui a un ministère incroyable qui aide les jeunes filles issues de l'exploitation sexuelle parce qu'elle, dans son enfance, elle a vécu de l'exploitation sexuelle dans sa famille. Mais Dieu l'a tellement restaurée qu'elle, aujourd'hui, elle est capable de dire, il y a eu le pardon sur ma famille, le pardon sur les hommes qui m'ont abusé. Et aujourd'hui, le pardon, je veux le donner à ces filles qui, eux, ont été mises dans des réseaux. Et partout dans le monde, son témoignage est proclamé haut et fort que ce n'est pas son passé ou sa famille ou sa dysfonction qui l'a défini, c'est l'amour de Christ qui l'a restauré, qui a fait que son cœur est devenu tellement un torrent d'amour pour que les gens autour de lui, autour d'elle, puissent être pardonnés, puissent être aimés et puissent avoir un espoir. Quand le pardon de Christ nous envahit, il est tellement grand comme un océan qu'on est capable de pouvoir dire maintenant, je veux le partager aux autres. Et alors qu'on ferme les yeux, j'aimerais prier ce matin pour quelqu'un. Peut-être que tu dis, je ne suis pas capable moi de pardonner, puis j'essaye, puis j'ai déjà prié pour ça, puis je n'ai juste pas la force. Et tu auras toujours le choix de retenir, de garder la vengeance ou de dire non, aujourd'hui je veux juste relâcher. Joseph a dû relâcher ce qui l'avait détruit, en fait. Parce que ce qui l'a détruit humainement, Dieu s'en est servi spirituellement pour que lui soit rebâti et rebâtisse les autres autour de lui. Non seulement dans sa famille, mais dans les nations environnantes, jusqu'à nous aujourd'hui. Son histoire continue de nous donner un modèle de crainte de Dieu, que dans les pires situations, dans les pires situations familiales, Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions surpasser tout ça. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Même si tu dis, mais c'est incroyable, ça continue d'abonder en ce moment dans ma vie, les difficultés, les souffrances. Dieu dit, ma grâce, elle est comme un torrent inépuisable. Au plus il y aura de situations difficiles autour de toi, au plus la grâce va continuer d'abonder. Tu ne pourras jamais, jamais arriver au terme des bénédictions que Dieu veut te donner. Tu ne pourras jamais arriver au terme du pardon que Dieu veut te donner et Dieu veut te donner à toi pour que tu le donnes à d'autres. Et non seulement pardonner, mais même aimer les gens qui t'ont fait du mal. Jésus à la croix était en train de dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. D'un sens, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, mais dans un autre sens, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient en train de faire. Jésus disait, mais Seigneur, ils sont brisés, et c'est pour ça qu'ils brisent. Les gens qui ont souffert continuent de faire souffrir les autres, mais Seigneur, donne-nous ton cœur, qui même à la croix, t'emmenais les gens au salut. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon paradis. Même si tu étais en train de souffrir, toi, d'une réelle souffrance, tu continuais de donner la grâce, tu continuais de donner le pardon. Et la Bible nous dit que le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous. Le même esprit que Christ était animé pour aimer, aider, partager, pardonner, donner un amour qui était divin. C'est le même qui est renouvelé dans nos cœurs en ce moment. Ouvre ton cœur, dis je déchire mon cœur devant Dieu. Je ne veux plus aucune chaîne qui me retient dans la rancune, dans la colère, dans la vengeance. Non, je veux être libre de tout ça. Quand tu pardonnes, tu décides d'ouvrir la cellule de prison pour te rendre compte que toi aussi, tu étais prisonnier. Et quand tu pardonnes, c'est toi qui es libéré. Mais aujourd'hui, tu as un choix à faire. Si Joseph avait décidé de se venger, il aurait été dans son droit humain. Mais il a décidé de choisir le droit divin. Il a dit, c'est pas à moi ça. Moi, le pardon va restaurer beaucoup plus que la vengeance. La grâce que j'ai reçue, ben, je veux la donner. Aujourd'hui, nous n'avons aucune excuse. Jésus a donné tout ce qu'il avait pour nous. Son corps a été brisé, son sang a été versé pour que nous puissions avoir une vie en abondance ici dans cette terre, même malgré nos circonstances difficiles, pour qu'un jour dans l'éternité, nous et nos familles, nous puissions chanter la gloire de Dieu. Chanter que sa présence est tout pour nous. Qu'elle renouvelle nos cœurs, que la colère s'en va, parce que la grâce de Dieu vient et le Saint-Esprit est ici dans ce lieu. Et si vous ne le sentez pas aujourd'hui, ouvrez vos cœurs, parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau dans vos vies, dans vos couples, dans vos familles. Dieu veut restaurer, même si tu dis, mais ceux qui m'ont fait du mal, maintenant sont décédés, je ne peux même plus me réconcilier avec eux, non, le pardon t'appartient quand même. Viens à la croix ce matin. Venons tous à la croix parce qu'on a tous besoin que Dieu renouvelle quelque chose en nous pour se servir de nous, pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors que tout le monde a les yeux fermés, alors qu'on termine cette réunion, je veux donner l'opportunité à quelqu'un de faire une décision avec Jésus. Si tu as compris que par tes propres forces, tu ne pourras jamais rien reconstruire qui va durer éternellement. Mais par la grâce de Dieu, ce que tu peux faire ici dans cette vie aura des répercussions éternelles. Juste lève ta main en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Merci pour les mains qui se lèvent. Ça peut être mille et une situations dans ta vie. Mais si aujourd'hui le message t'a parlé et que tu dis, oui, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de son esprit qui vient renouveler mon cœur. Merci pour les mains qui se lèvent. Si tu dis, j'ai besoin de pardonner aujourd'hui, Seigneur, donne-moi la force pour pardonner, j'en ai pas de force. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu donnes ta force, tu renouvelles. Peut-être aujourd'hui, tu as besoin de la force pour te pardonner à toi. Tu demandes pardon à Dieu et la Bible, elle dit, hein, que Dieu nous pardonne si on a un cœur sincère devant lui. Son pardon est encore aujourd'hui. Il est encore disponible aujourd'hui. Mais toi, tu n'arrives pas à passer au-delà de tes forces. Et toi, tu essaies de te venger, tu essaies de te faire subir encore. Mais ne porte pas sur tes épaules ce que Jésus a déjà porté sur la croix. Il a déjà tout pris, il a pris ta culpabilité. Alors viens à lui en disant, Seigneur, merci parce que je ne suis rien, mais toi, tu es tout et tu fais toute chose nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui lèverait la main en disant, Seigneur, je veux que tu viennes toucher ma vie. Remplis mon cœur en ce moment. Merci pour les mains qui continuent à se lever. Seigneur, merci pour ta présence qui est ici. Et merci parce que ton Église est un lieu refuge. Et peu importe, Seigneur Jésus, parfois on est les victimes, parfois, Seigneur, on est les méchants. Mais merci parce que ta grâce est ouverte et disponible pour nous aujourd'hui. Et puis on veut la serrer dans nos bras. Seigneur, merci parce qu'à la croix, tes bras étaient grands ouverts pour nous accueillir. Et ta vie a été donnée pour que nous puissions la recevoir en abondance. Non seulement une vie pleine de joie, mais une vie pleine de pardon, une vie pleine d'amour, une vie pleine de douceur, une vie non plus remplie de haine et de vengeance, mais de grâce et d'amour. Seigneur, je veux, Seigneur, entendre des témoignages dans les prochains jours, prochaines semaines de réconciliation. Seigneur, des choses que tu vas faire à nouveau, parce que tu es le Dieu qui change toutes choses. Tu fais toutes choses nouvelles. Et c'est dans ta grâce, Seigneur, que nous nous abandonnons dans le nom de Jésus qu'on prie et tout le monde dit Amen.